Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Qu'est-ce qui nous a interpellés dans les actualités cloud ou DevOps en ce mois de novembre 2021? C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode de Actu DevOps.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bienvenue à toi, cher compagnon, et dans ce nouvel épisode de Actu DevOps, qui est ton émission de veille mensuelle sur le DevOps et le cloud, j'ai avec moi René. Bonsoir René.
Bonsoir Christophe.
Et Erwan. Bonsoir Erwan.
Bonsoir.
Et je tiens à te dire que ça va devenir une habitude, mais reste bien jusqu'à la fin pour découvrir les petits outils que René t'a dégotés. Tu vas voir, il y en a des pas mal. Alors, une petite chose aussi en discutant, si tu apprécies le podcast, si tu es déjà un auditeur ou une auditrice de long terme, tu peux nous aider et nous soutenir en faisant un petit don, si tu as envie, sur Liberapay, qui est une plateforme de gestion de dons libres, puisque c'est basé sur un logiciel libre aussi, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et on va commencer tout de suite par une petite news de Erwan. Erwan va nous parler de quelque chose dont on n'a pas parlé, pourtant ça fait un petit moment, mais Erwan va nous en dire un peu plus.
Alors oui, je voulais revenir sur une annonce qui a eu lieu fin septembre, une annonce faite par Canonical, donc Canonical qui est la boîte qui est derrière Ubuntu, qui a annoncé que elle allait étendre le support de ses LTS historiques. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les LTS, qu'est-ce que c'est? Ce sont les versions sur lesquelles le long time support est assuré. Pendant cette période, en fait, l'éditeur, donc là en l'occurrence Canonical, assure une continuité des patchs de sécurité pour sa release. On parle de ESM pour Extended Security Maintenance Phase. Donc l'idée qui était derrière cette extension, c'est que c'était 5 ans de support à partir de la publication de la release. Ça a été rallongé il y a quelques temps, il y a 3 ans, à 8 ans. Et donc maintenant, c'est passé à plus 2, donc à 10 ans. Ça signifie que les releases historiques Ubuntu 14.04 et 16.04 ont donc un support de sécurité, on va dire, jusqu'en avril donc 2024 et avril 2026. Donc une durée de vie qui est quand même clairement conséquente. Au passage, les LTS plus récentes, à savoir la 18.04 et la 20.04, bénéficiaient déjà de ce support de 10 ans. Alors la grosse question, c'est pourquoi Canonical se prend la tête à rajouter du support sur des trucs legacy, etc., qui peuvent être vraiment pénibles en termes soft et tout. Mais en fait, après avoir consulté tout un tas d'études sur la gestion de l'infra, ils sont aperçus, alors ça peut paraître un peu cocasse, mais ils sont aperçus qu'une bonne partie des coûts d'infra, c'était les coûts de migration des ES. Et donc du coup, effectivement, si on revient au tout début, quand il y avait une durée de vie de 5 ans, forcément... changer le parc d'une infrastructure tous les 5 ans, en gros, ça, dès qu'on a un parc vraiment conséquent, ça peut être à la fois très coûteux, mais aussi très compliqué et surtout très long. Et donc, du coup, pour permettre l'idée qui est derrière donc cette extension, c'est vraiment pour donner du temps en fait aux équipes et économiser du coup aussi de l'argent pour faire les migrations de la façon la plus sereine possible et donc du coup aussi diluer le temps de migration sur une plage de temps plus étendue. Il est évident que c'est pas une invitation à garder des Ubuntu 14 partout sur votre infrastructure. Mais c'est pour vous donner, encore une fois, une espèce de ceinture de sécurité en plus, si malheureusement vous avez encore des versions aussi vieilles que ça. Alors ça concerne aussi bien les versions serveur que desktop. Et pour finir la petite news sur un troll, sachez que pour Windows 10 Enterprise, par exemple, le cycle de vie est de 5 ans. Donc je sais pas si ça vous parle, René. Est-ce que tu savais déjà qu'il y avait que ça avait été étendu comme ça, et qu'est-ce que ça t'évoque?
Non, je savais pas forcément que c'était aussi long. Effectivement, en principe, on utilise des LTS. Dans mon travail, moi par contre, je suis plutôt chez la concurrence, je suis plutôt côté Red Hat CentOS, donc parce que ben, principalement les clients utilisent plutôt ces distributions là. Après, ça dépend vraiment de nos clients. Après, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, effectivement, ça laisse un peu du temps pour migrer. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est peut-être pas une très bonne idée de garder des distributions aussi vieilles, mais à minima, au moins, il y a des patchs de sécurité qui arrivent, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, c'est un petit peu le retour que j'ai, et ouais, je trouve ça plutôt bien, en fait. Christophe ?
Eh ben, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Après, moi, c'est vrai que dans ma mémoire, c'était 6 ans, mais comme quoi... C'est 8 ans, 10 ans, c'est bien. Faut savoir que chez nous, on a plutôt nos infrastructures sont basées sur du Debian, pas sur du Ubuntu. Faudrait peut-être qu'un jour, on se pose la question d'aller sur du Ubuntu, mais côté infrastructure, ça nous semble plus logique d'avoir un système plutôt plus libre que Ubuntu. Par contre, toutes nos machines, elles sont sur du Ubuntu. Pour pas s'embêter, parce que Ubuntu, il y a une communauté énorme, donc côté poste de travail, et c'est là où on a le plus de problèmes avec les périphériques. On va pas aller se mettre des Debian et s'embêter, mais par contre on met des Ubuntu. Et typiquement là, le PC sur lequel j'enregistre, c'est un PC que j'ai pas réinstallé depuis son achat, donc il est sur une Ubuntu 18. Donc ça commence à faire, j'ai pas encore migré vers la 20, ni je sais pas si je vais le faire sur la 22. Peut-être que si, quand même, parce que 4 ans, ça commence à faire. Mais du coup, avoir ces patchs-là, c'est bien. Après, je ne sais pas si avoir un poste de travail en 14-4, ce soit une bonne chose pour nous, mais l'idée est là. L'idée est là, c'est qu'on puisse avoir des LTS et de ne pas trop s'embêter sur mettre à jour tout le temps les machines, parce que qui dit mettre à jour, mettre à jour aussi tout ce qu'il y a dessus, ça peut quand même être très long, comme le dit Erwan, et encore, on n'est pas beaucoup chez l'Hydra. Et Erwan, toi, alors, dans ta boîte, comment vous faites ?
Alors nous, une bonne partie est sur Ubuntu 18, donc on a un peu de temps, mais ce que je trouvais assez surprenant, c'est que je ne sais pas s'il y a beaucoup d'éditeurs comme ça qui étendent ce genre de support sur des trucs aussi vieux, puisque généralement, les gens ont plutôt tendance à pousser à l'upgrade d'une façon plus ou moins contraignante. Et là, du coup, moi, je trouve que c'est quand même plutôt bien. Et donc, non, mais enfin, je trouve que c'est des initiatives à saluer. Ça, j'aimerais juste pas être le gars qui doit maintenir ça, parce que ça doit être quand même pas hyper, hyper funky, quoi. Mais donc voilà.
Bah justement, je suis en train de penser, ça doit être une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui gèrent des parcs de travail immenses, comme je pense aux écoles ou à l'éducation nationale, toutes les administrations qui ont une quantité de parcs immenses qui sont a priori toutes standardisées. Et ça peut être très intéressant justement de ne pas migrer tous les 14 ou tous les 16 tous les 5 matins. Parce que j'espère que dans ce genre de cas, quand ils ont des machines en Ubuntu, ils ont des playbooks en cible pour mettre à jour tout leur poste de travail. C'est un truc, je pense, ça devrait être pas facile, mais intéressant de mettre en place pour les parcs machines. On n'y pense pas souvent, mais les parcs postes de travail, ça peut être mis à jour par en cible aussi. Eh bien, on va passer à la news suivante, et c'est René qui s'y colle. Pour le coup, il va nous parler de performance, je crois.
Ouais, absolument. Je vais vous parler un petit peu de nouveautés qui arrivent dans le kernel. Alors, c'est des choses qui ont déjà été évoquées, par exemple, dans un autre podcast qui est Message à caractère informatique, où ils font des épisodes un peu sur le kernel. Et ils ont déjà parlé de ce composant-là, qui s'appelle IO Ring. Et en fait, c'est une nouvelle façon de gérer les I.O. et les gérer de manière asynchrone. Et donc, en fait, je m'excuse par avance, je vais certainement simplifier et dire peut-être un peu des bêtises par rapport à ce que c'est, mais c'est pour rester le plus simple possible. Mais voilà, donc c'est un composant qui est c'est dans le noyau, c'est un composant qui est développé par quelqu'un qui s'appelle Jens Axbo, qui est financé par Facebook. J'en profite pour faire une petite parenthèse. On est beaucoup à pas aimer forcément Facebook, mais il faut quand même leur reconnaître qu'ils font des choses au niveau noyau qui sont assez intéressantes, notamment le financement de cette personne pour développer toute la couche, la nouvelle future couche, on va dire, d'IO très performante. Et aussi, ils font des choses aussi pas mal de choses autour des cartes de management, des projets assez intéressants au niveau bare metal. Bon, forcément, ils y ont leur intérêt, mais voilà, on peut quand même saluer ces efforts-là. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de IO Ring? En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ce nouveau composant, donc c'est en phase de développement, c'est des choses qui vont nous arriver dans peut-être... on va dire 1 à 2 ans, et qui risque de pas mal révolutionner un petit peu les performances de nos machines au niveau de l'IO. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que depuis quelques mois, donc c'est un composant qui est arrivé dans le noyau 5.1, et il y a eu un gros travail, et c'était assez rigolo, un petit peu comme une série à suivre, où il y a eu énormément d'optimisation sur ce composant-là. Et en gros, grâce aux multiples allers-retours, et au travail qui a été fait par le mainteneur, en gros, il a quasiment doublé la capacité d'IO. Alors, on parle de nombre d'IO par seconde et par corps. Donc, sur un corps, sur sa machine, donc en faisant des tests toujours les mêmes, sur sa machine avec 2 SSD, en gros, il est parti d'à peu près 5 millions d'IO. Avec la dernière configuration qu'il avait. Il a fait d'autres essais avant où il était un peu en dessous, mais avec une autre configuration. Et grâce à du travail logiciel, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, il est à peu près à 10 millions d'IO par seconde et par corps. Voilà, donc c'est un gros travail qui est à saluer. L'autre aspect intéressant, c'est que cette personne-là a aussi fait le logiciel qui s'appelle FIO, qui permet justement de faire des benchs au niveau IO des machines. Je vous encourage à regarder cet outil parce qu'il est vraiment très intéressant, permet de bien bencher sa machine. Et on a un Français qui est passé aussi à Message à caractère informatique, que je connais un peu, qui s'appelle Arwan Velu, qui travaille aussi de concert et qui lui cherche à automatiser et à scripter ses benches, et aussi à les reproduire de son côté. Donc c'est une personne qui travaille chez Criteo, et chez Criteo, ils ont aussi beaucoup d'infrastructures bare metal, donc c'est des solutions qui les intéressent. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a un contributeur français qui participe à cet effort-là, en faisant des tests et en essayant de reproduire pour valider sur ses configs à lui, qu'il arrive à obtenir le même niveau de performance. Voilà. À noter aussi que Erwan, c'est la personne qui co-organise le kernel RICIP, qui est sur Paris, je pense que c'est le plus gros rassemblement pour les mainteneurs du kernel, on va dire, ou les gens qui s'intéressent au kernel sur Paris. Une grosse convention, très intéressante. Voilà. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Parce que quand même, voilà, j'ai beaucoup parlé. Qu'est-ce que va nous apporter ces nouvelles IO? Eh ben, c'est en gros de bien meilleures performances pour tout ce qui est IO dépendant. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les premiers logiciels qui vont en bénéficier. Donc, dans l'eau, par exemple, il y a Postgres, donc tout ce qui est base de données. Il y a RocksDB. Et puis ben aussi Ceph qui devrait bénéficier assez rapidement de ces avancées là. Donc petit à petit les logiciels vont finir par migrer en utilisant cette couche de qui est donnée par le noyau. Et voilà, donc je pense que dans l'avenir, on va avoir des machines bien plus performantes sur l'IO et ça montre encore une fois qu'il y a des gains à gagner. Il y a beaucoup de gains qui peuvent être gagnés en optimisant nos logiciels. Et voilà, c'était une news que je trouvais intéressante et vous retrouverez tous les liens sur le sujet dans les notes du podcast. Désolé pour ce long monologue, je vous laisse un peu la main si vous voulez réagir sur le sujet.
Juste René, est-ce que tu peux préciser ce que c'est un IO pour les gens qui ne connaîtraient pas ça?
Alors IO c'est input-output, en gros c'est quand on veut faire une demande d'accès à un fichier par exemple, quand on va prendre des données d'un fichier ou sur le réseau, bon, on fait ce qu'on appelle une entrée-sortie, donc on fait une demande au... Notre application va faire une demande au noyau, au kernel, avec un system call. Et donc le noyau, lui, va donc va demander ensuite au device à travers la couche de driver, va demander entre guillemets au périphérique, renvoie-moi le bloc en question, le bloc d'entrée-sortie, et va le retransmettre à l'application. Voilà, donc c'est ça, c'est une entrée-sortie. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais c'est l'idée.
Bah écoute, on demandera au jour dans les commentaires de le dire si c'est clair. Bah je vais commencer vu que j'ai la parole. Je vais crier la priorité à Erwan. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'en termes de logiciel, on va accélérer en fait les performances machines sans changer les disques durs. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que du coup, si on peut garder nos disques durs plus longtemps, ne pas les renouveler trop rapidement, c'est bien aussi. Ma crainte, c'est est-ce qu'on va pas les épuiser plus vite du coup, vu qu'on va écrire et lire plus rapidement dessus. Alors, j'en sais rien.
Pas forcément. Après, ce qu'il faut voir, c'est que en gros, alors ça s'applique, c'est quand même des cas d'usage qui s'appliquent pas forcément au desktop ou aux machines qui sont peu sollicitées en IO. C'est vraiment pour des voilà, ça on va dire centaines d'IO par seconde jusqu'à des milliers d'IO par seconde. Il n'y a pas tellement de différence entre des IO asynchrones et des IO synchrones. Ça commence à être intéressant quand on commence à arriver vers le million d'IO ou voilà, quand des machines très très sollicitées et on sait par exemple que les bases de données c'est énormément sollicité. Et là, ça devient intéressant parce que ça permet de, ben, entre guillemets, oui, avec la même machine de pouvoir encaisser beaucoup plus de charges. Donc c'est effectivement les faire durer peut-être plus longtemps et aussi avoir moins de machines pour le même workload, entre guillemets.
Oui, je pensais à ça. Je pensais aussi au disque réseau qui pouvait prendre plein de d'entrées-sorties, enfin plein de demandes de tous les côtés ou genre de choses. Et du coup, ça va éviter qu'on puisse les changer tous les 5 matins. Je vais laisser la parole à Erwan.
Ah bah moi je découvre la news. Hein. Je trouve ça ouf parce que moi je me rappelle encore du super levier qui a été le passage du SATA à du SSD. On disait ah oh, c'est incroyable. C'est vrai que c'est incroyable. Ça clairement les IO étaient nettement moins. On pouvait encaisser nettement plus et du coup on était beaucoup plus serein et du coup on faisait probablement un peu moins attention sur la façon dont on gérait tout ça. Et là se dire que juste avec du soft on peut faire donc là si j'ai bien tout suivi on peut faire x2, c'est quand même Enfin, c'est quand même assez ouf. Et puis, effectivement, pour, je pense pas que pour le commun des mortels, ça va changer grand chose, mais les gens qui font du traitement temps réel sur des volumétries incroyables, etc., là, enfin, vu que la microseconde est importante, c'est game changer pour ces gens-là. Donc, c'est ouais, je trouve ça vraiment ouf. Et je suis surpris du coup que ça, enfin qu'il n'y ait pas plus d'énergie mis là-dessus. Enfin peut-être. Enfin, tu vois, moi j'en avais pas spécialement trop entendu parler. Alors après, je suis moins ce genre de sujets qui sont proches du kernel, etc. Mais ça me paraît être un levier incroyable, quoi.
C'est justement ce à quoi j'étais en train de penser. Je me dis, si on peut faire ça sur les disques, on pourrait en théorie faire ça sur tout, la mémoire, le processeur, la gestion aussi, comment ça s'appelle, des périphériques. Enfin, on pourrait améliorer un petit peu tout. Oui, c'est ça, je pensais au réseau. On pourrait améliorer plein de choses. Et je me dis qu'en investissant dans le soft et proche du kernel, ça pourrait être quand même très, très intéressant. Plutôt qu'à chaque fois aller changer des machines encore et encore et encore. Peut-être tirer parti des machines qu'on a déjà pour encore une décennie supplémentaire. Je parle des machines en data center, hein, et même locales. Hein. Pourquoi pas?
Ouais, je voulais juste apporter peut-être un tout petit bémol, il faut faire attention parce que ça reste du benchmark. Donc les benchmarks sont très bons. Après, les benchmarks ne sont pas toujours représentatifs de tous les cas d'utilisation. C'est sûr que c'est intéressant, c'est certainement une très bonne progression. Attention, ce n'est pas forcément un x2 sur toutes les I.O. Il faut déjà avoir le sous-système disque qui est capable de fournir toutes ces I.O. Voilà. Mais effectivement, pour les gens qui font du Hadoop, par exemple, je pense que ça va être assez intéressant. Bien sûr, il faut aussi que les logiciels s'adaptent pour utiliser cette couche logicielle-là. Parce que jusqu'à maintenant, j'en ai pas parlé, je me permets de rajouter ce petit truc, il y avait une couche qui s'appelait Async, un driver qui s'appelait Async IO, et donc c'est peut-être des choses que les gens ont pu manipuler s'ils ont installé de l'Oracle, parce que Oracle pouvait utiliser ça par exemple. Et en fait, ça c'est une ancienne méthode, et IO Ring, en fait, c'est le renouveau un petit peu de cette couche logicielle-là qui, pour tout un tas de raisons, n'était pas suffisamment performante. Donc voilà, c'est un renouveau avec de meilleurs algorithmes, certainement une méthode meilleure. L'autre avantage, c'est que ça plaît beaucoup à Linux, donc ça risque de rentrer assez vite dans le noyau. Voilà, donc c'est un plus, c'est sûr. Après, voilà, ça peut peut-être pas, pareil, on peut pas généraliser à tous les composants logiciels. Là, il y avait effectivement un manque ou des défauts sur cet aspect-là. C'est peut-être pas vrai probablement pas vrai pour la gestion mémoire, etc. Voilà, il y a des choses qui sont déjà très optimisées dans le noyau. Juste pour voilà, petit bémol pour dire qu'on peut pas forcément gagner partout, mais en l'occurrence là sur les IO, l'avenir risque d'être assez prometteur pour Linux parce que ça risque d'être une avancée assez majeure.
Justement, l'avenir nous le dira, et en plus on a parlé beaucoup de logiciels libres, et on continuera avec ma news, mais avant ça, puisqu'on parle de libre, je permets à rappeler à notre auditeur qui nous écoute que ce podcast il est en CC by SA, qui est une licence libre de contenu, et donc si tu veux, cher auditeur, tu peux prendre le podcast, le découper, le partager, prendre des petits bouts, le mettre dans tes présentations, etc. Si tant est que tu nous notifies et que tu mets la source, évidemment, dans chaque produit dans laquelle tu inclus ton podcast, enfin notre podcast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du coup, la prochaine news, c'est la mienne. Et moi, je vais vous parler de M3O. Alors, M3O, c'est un service qui propose en fait une alternative open source à Amazon Web Services. En fait, il nous promet des micro-API pour les usages du quotidien. Alors, les caractéristiques qui sont mises en avant sont une expérience développeur qui est la priorité de M3O, un jeton unique pour accéder à toutes les API, on va en parler plus longuement des API, rapidité à le prendre en main parce que toutes les API proposent une expérience unique avec une URL très simple qui est api.m3o.com/v1/service/endpoint, donc c'est plutôt cohérent. Un paiement à la demande, c'est-à-dire on va payer à chaque fois qu'on fait une demande à une API, et il y a même une clé. Bon, le parti pris, en fait, il est simple dans M3O, c'est il n'y a pas d'infra. C'est basé sur des services que l'application consomme. Et il y a déjà plus de 35 services, et on peut citer pêle-mêle la gestion du cache, les bases de données, l'hébergement de fichiers, les fonctions as a service, les emails, les SMS, la gestion des images, la gestion de l'identification, les mots de passe à usage unique, etc., etc. En gros, c'est du AAS, API as a service, comme je l'ai appelé. Ce service-là, il est proposé par Microservice INC, la bien nommée société londonienne, qui nous propose une tarification transparente parce que à la requête, c'est-à-dire chaque requête qu'on va faire, on va payer pour chaque requête d'API qu'on va consommer. Alors, ce que j'ai pas trouvé, et pourtant j'ai cherché, j'ai épluché les conditions générales, les mentions légales et autres, c'est où est-ce que c'est hébergé. À part que la société est londonienne, je sais pas trop où c'est hébergé. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a sous le capot et pourquoi j'ai parlé d'open source tout à l'heure? Parce que là, je viens de vous parler d'un service en ligne. Eh ben, en fait, ce service en ligne-là, il est basé sur le logiciel Micro et ses services. Micro, c'est une base qui est codée en Go. Désolé, René, c'est pas du Rust, mais c'est du Go. On peut l'installer soit avec le binaire, via un conteneur, ou même avec une charte Helm dans Kubernetes. Il y a plein de projets annexes, donc je vais pas rentrer dans les détails. Vous pouvez utiliser tout ça pour faire votre propre service aussi. Mais pourquoi je voulais en parler? Parce que, outre le fait que c'est pas vraiment une alternative à Amazon Web Services, c'est par contre une nouvelle manière de penser les applications pour moi qu'on voit émerger depuis pas mal de temps. Et d'après ce que j'ai compris, ils prônent plutôt les applications avec un front statique, une application statique qui va consommer une multitude d'API. Ils font référence souvent à la Jamstack, donc ça je vous renvoie vers les liens du podcast, et tous les autres modèles de développement dits modernes. C'est que du Node.js là-dedans ou du JavaScript, puisqu'il y a très peu d'appels au serveur. Je vais pas rentrer dans les détails, mais pour le coup, on est vraiment dans le monde des microservices, et je vous renvoie à l'épisode de podcast qu'on a fait sur les microservices. Et donc, je voulais vous en parler et savoir ce que ça vous évoquait, cette news-là. Et on va donner la parole à Erwan.
Je voulais pas couper la parole. ça a l'air très ambitieux et j'ai l'impression que c'est aussi un peu dans la mouvance de tous ces services qui se pop ça abstrait vraiment tout et effectivement tout est dispo via des API. Alors franchement, on en voit de plus en plus des projets comme ça. Là, par contre, ce qui, je pense, en dénote, c'est la quantité de services, justement, que ça propose par rapport à ce que, en tout cas, moi, j'ai pu voir à côté. Je reste pas sceptique, mais je me demande toujours qui utilise vraiment ça à des grandes échelles. C'est peut-être très naïf, hein, y a peut-être plein de gens, mais j'ai pas assez de recul sur ce genre d'usage. Toi, tu as eu l'occasion de tester, où tu t'es dit tiens, ça pourrait m'être utile pour tel ou tel sujet.
Quand tu dis toi, tu parles de moi? Oui, en fait, Erwan, le micro est coupé.
Je disais oui, enfin toi Christophe, pardon, ou René, si vous avez utilisé ce genre de service.
Vas-y René, je finirai à la fin.
Alors moi non, je connaissais pas. J'ai pas utilisé Azure Service. Par contre, nous on utilise LocalStack. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est un projet pareil open source. Et LocalStack, l'idée c'est de faire, c'est complètement, alors c'est des API complètement compatibles, ou du moins très compatibles avec AWS. Et l'avantage de cet outil-là, c'est de pouvoir développer quasi comme avec AWS en étant local. Et donc pas se prendre les coûts AWS pour la mise au point. Voilà, je connaissais LocalStack et donc non, je connaissais pas l'outil dont Christophe parle. Ça a l'air intéressant à regarder en détail parce que effectivement un des problèmes de LocalStack c'est que comme je disais, c'est quasi la compatibilité est pas mal, mais il n'y a pas tous les services. Nous, on l'a utilisé par exemple pour tout ce qui est lambda. Et oui, il y a des petits manques, des petites choses qui sont pas tout à fait exactement comme chez AWS. Mais bon, ça permet quand même de bien défricher avant de passer, on va dire, plus à la réalité avec en allant après chez AWS. Voilà, Christophe, je te laisse la main.
Ouais, alors quand j'ai découvert ça, avant de rentrer dans le détail, je me suis dit, ah ouais, super, un autre logiciel de gestion de data center libre comme OpenStack, mais pas du tout, en fait, c'est une autre philosophie qui est là derrière, c'est il s'appuie sur des briques managées, comme on a vu, ça peut aller sur du Kubernetes managé, donc du coup, il s'appuie sur ce genre de choses qui est déjà disponible dans plein de data centers, et par contre, ils offrent une couche d'abstraction supplémentaire qui n'est pas du tout compatible Amazon Web Services, mais qui offre une expérience développeur, d'après ce que j'ai compris, beaucoup plus facile. Et moi, je pense que ça s'adresse vraiment aux développeurs, pour le coup. En plus, on peut développer nos propres API et les inclure dans les services micro. Parce que en fait, l'organisation micro a plein de dépôts GitHub. Et en fait, il y a plein de services. Et on peut créer nos propres services, les lancer en fait dans l'infrastructure micro, puisque micro est une sorte de méta-gestionnaire d'API, et puis à l'intérieur, on va lancer des morceaux d'API, et puis on peut imaginer tout ce qu'on veut. Hein. J'ai vu des API qui permettaient de faire de la géolocalisation, j'imagine qu'il peut y avoir des API qui permettent de récupérer le temps, enfin, à chaque cas, on peut développer son API, et donc du coup, ce que moi j'y vois, c'est des API déportées qui sont peut-être mutualisées avec d'autres applications et par contre des applications très légères puisqu'elles sont hébergées sur du stockage objet du coup puisque c'est du statique stockage objet et puis peu de serveurs. Moi je pense que c'est très bien pour démarrer des petites applications ou des applications assez légères mais dès qu'on va aller sur du truc un peu spécifique ou un peu costaud, je vais pas prendre d'exemple parce que sinon je citerai un des gros, mais sur quand on a des cas un peu spécifiques, je pense qu'on pourra pas aller dans ce cas-là. Mais par contre, ça peut-être aider plein d'applications à se développer. En tout cas, j'ai trouvé le truc assez intéressant et assez pensé et mature pour être une vraie alternative et une autre manière d'envisager le développement des applications. C'est pour ça que je me suis dit, on va essayer de plaire aux développeuses et développeurs qui nous écoutent. Parce que je sais qu'il y en a.
Je viens de regarder vite fait en parallèle du coup le détail, mais ça fait le ça fait tout. c'est fou, il y a vraiment un scope qui est hyper large. C'est vraiment très ambitieux.
Oui, et puis on peut l'héberger soi-même, c'est ça qui est bien aussi. Et je suis presque sûr qu'un jour on aura une API qui fait le café. Et ça, ce sera pas mal. Bon, trêve de plaisanterie, on va passer au passage que tout le monde attend, que notre cher auditeur attend avec impatience, ce sont les petits outils à René, puisque ça y est, René, tu vas bientôt avoir ta rubrique à toi. Donc, René, je t'en prie, je te laisse la parole.
Merci. Comme d'habitude, j'ai essayé de dénicher des petits outils sympas. Mais là, pour le coup, c'est des outils, je pense, qui sont... Enfin, pour le moins, le premier dont je vais parler, je pense qu'il est bien connu aujourd'hui, mais je voulais quand même le mentionner parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu dommage, c'est RipGrep en fait. Donc c'est des outils qui sont proposé par un auteur dont le pseudo est Burn Sushi. Derrière, c'est un monsieur qui s'appelle Andrew Gallant, qui est très actif dans la communauté Rust. Alors oui, c'est des outils en Rust. Je suis ça de manière assez... voilà, c'est mon dada. Et en fait, c'est donc un grep, une alternative à grep, mais le gros avantage, si vous l'avez jamais essayé, c'est qu'il est extrêmement rapide. Mais déjà, grep, c'est rapide, mais ripgrep fait du récursif par défaut. C'est vraiment bluffant la rapidité à laquelle il va trouver la chaîne de caractères que vous cherchez dans un ensemble de fichiers. C'est vraiment bluffant. C'est très très optimisé. La ligne de commande est quasi calquée sur le grep initial, donc il n'y a pas un effort de très très important pour se familiariser entre guillemets avec cet outil là. Et moi personnellement, par exemple, je commence à avoir, pour un de mes clients, j'ai commencé à avoir une infrastructure as code assez importante. Et voilà, je fais beaucoup de rip grep dedans pour retrouver des chaînes. Voilà, je fais même plus des fois l'effort de me rappeler dans quel fichier c'est. Voilà, je me mets à la racine du projet, je mets un coup de rip grep et je finis par trouver où c'est exactement. Voilà, je vais déjà vous laisser la main pour savoir si vous connaissiez et si vous utilisez.
Alors moi je connaissais pas, mais vu ce que tu en dis, si ça supporte aussi bien les regeps etc que ce qu'on peut faire avec le grep, c'est vrai que c'est pas mal. Mais ça me fait penser juste à un truc idiot, mais moi je vois beaucoup de gens faire des espèces de grep récursifs dans leur repo GitHub, alors que gitgrep ça marche très bien aussi, et pareil l'efficacité est nettement supérieure au grep normal. Mais en tout cas ça c'est cool, je me suis mis le bookmark dessus, je vais regarder, merci.
Et ben moi, je ne connaissais pas non plus, et je suis sur le README du dépôt GitHub. Et si les temps qui sont annoncés sont vrais, c'est en effet très très rapide et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Alors, je vais essayer parce que gagner du temps là-dessus sur des greppes, c'est quand même vachement bien parce qu'on fout des greppes de partout, mine de rien. On a tendance à l'oublier, mais dès qu'on code du bash, on met des greppes un peu partout. Donc, si on peut gagner quelques millisecondes ou quelques secondes. Ça peut être pas mal. Enfin là, c'est plutôt des millisecondes ou des centaines de cents de secondes. Je sais pas si ça se dit. Ouais, je te laisse la parole, René.
Alors après, tu le vois comme voilà, c'est un outil qui utilise beaucoup le parallélisme, etc. Donc quand il tourne, il sollicite la machine. Hein. C'est pas un truc qui est anodin. Voilà, ça va quand même mettre un bon coup de pression sur les CPU et le disque. C'est aussi assez intelligent parce que par défaut, par exemple, si vous avez un point gitignore, il va pas aller chercher dans les fichiers qui sont censés être ignorés. Voilà, donc il a des comportements par défaut un peu futés. Voilà, donc je vous encourage à vraiment essayer parce que c'est vraiment un super outil. Et dans un prochain épisode, je vous parlerai aussi peut-être de FD. Et là, le deuxième outil qui est proposé par le même auteur, c'est XSV. Donc XSV, si vous avez à faire de la manipulation de fichiers CSV, voilà, pareil, c'est donc depuis un shell, un command line, on peut faire tout un tas de choses sur un fichier CSV, le retrier, voilà, il y a une possibilité, je vous engage à aller lire la page, le README de l'outil, c'est très très riche, on peut faire énormément de choses, et aussi de la même manière, c'est extrêmement rapide. Voilà, donc il y a peu de temps, j'ai eu un peu à faire quelques manipulations sur du CSV et voilà, c'est franchement ça marche super bien. Voilà, deuxième outil assez sympathique.
Oui, et puis je vois, il peut présenter ça sous forme de table, c'est quand même vachement pratique, je trouve. Tu peux afficher directement ton CSV dans ton terminal sans que ce soit imbitable.
Ouais, il fait du formatage, il fait énormément de choses, et la liste est colossale.
C'est le JQ du CSV.
C'est le JQ du CSV, ouais, c'est ça.
Parce que on peut faire des requêtes, du coup, il va falloir que j'aille tester ça alors.
Ouais, tester ça. Ouais, je alors très très honnêtement, je maîtrise pas tout ce qui est toutes les possibilités, mais moi j'ai fait des choses assez basiques, mais y a moyen de voilà de s'affranchir par exemple de pas utiliser du panda pour en Python pour faire un peu du manipuler du CSV et d'utiliser ça. Ça marche très très bien. Alors pas pour faire peut-être du machine learning, des choses comme ça, mais pour des usages un peu plus basiques comme j'ai eu à faire, voilà, c'était vraiment très efficace. Et puis je vais vous parler du dernier bonus alors c'est pas un outil, c'est un site qui a beaucoup d'étoiles sur GitHub. Je pense que j'en ai peut-être déjà parlé, mais je vais quand même en reparler. Ça s'appelle The Art of Command Line. Et c'est un site qui recense énormément de. Enfin, d'astuces, mais pas que. En fait, il y a des one-liners, il y a des bonnes pratiques pour le shell, en fait. Et donc, pour moi, c'est vraiment une page de référence. Et donc, bon, forcément, on mettra le lien dans les notes de l'épisode. Mais voilà, je pense que il y a plein de choses à découvrir sur cette page. Et donc, de la même manière, allez jeter un œil. Je pense Enfin, je pense que n'importe qui a à apprendre un petit peu deux ou trois astuces qui sont sur cette page. C'est qu'il y a vraiment des choses très très intéressantes.
Moi, je connaissais effectivement The Art of Command Line. Et ce que je trouve très bien, c'est que c'est absolument pas prétentieux. Les sujets sont très très variés. Et il y a plein d'astuces, des fois peut-être un peu à la con, qui sont quand même sympas. Je sais pas, il y a des confs de base pour son client SSH, par exemple, pour optimiser un petit peu le truc. C'est des trucs débiles, mais du coup, rajoutez ça dans votre SSH config et ça sera, ça coûte pas cher et c'est bien. Et il y a des one-liners où c'est le genre de truc où typiquement on se dit en fait pourquoi je faisais pas ça comme ça avant, et franchement c'est hyper bien fait. Moi je trouve je me rends compte que j'avais mis le star sur GitHub, donc effectivement non seulement je connaissais, mais en plus je plus sois beaucoup.
J'avais aussi mis une étoile sur le dépôt et je pense que je vais aller le relire pour en parler dans mes live coding, puisque comme je fais beaucoup de live coding en bash, ce serait bien d'en parler quand même, mine de rien, et de trouver des cas d'usage dans les live coding. Comme j'ai beaucoup de cas d'usage, parfois ça me permettra de trouver ça et de le mettre en pratique pour les personnes qui nous suivent. Justement, et ben, merci à vous deux pour cet épisode qui était un petit peu plus court que d'habitude parce qu'on n'est que trois. Avant de vous laisser le mot de la fin, je vais rappeler quand même à notre auditeur ou notre auditrice qui nous écoute qu'il peut venir discuter de cet épisode, voire d'autres choses, sur le forum des compagnons du DevOps. Le forum des compagnons du DevOps, c'est la base de la communauté des compagnons et le lien est en description. C'est le premier lien en description pour s'inscrire. Et je vais laisser notre petit mot de la fin et le premier à Erwan.
Eh ben, toujours un plaisir d'échanger avec vous et en plus là j'ai appris plein de trucs, donc top, merci à vous.
Et enfin René, du coup c'est toi qui as le mot de la fin de la fin.
Alors, j'ai le mot de la fin de la fin. Eh ben moi si tu veux, comme mot de la fin, je vais vous... Alors je suis peut-être allé un peu vite sur l'aspect IO Ring, il y a beaucoup de choses à dire, donc j'ai essayé d'être assez concis, et je vous engage vraiment à aller voir ce qui se passe au niveau noyau, parce que souvent c'est de là que viennent les plus grosses révolutions de l'informatique, donc je pense que c'est vraiment intéressant de voir ce qui se passe. Notamment par exemple, on peut parler de Docker, et Docker c'est avant tout une facilitation de mécanismes qui étaient déjà dans le noyau. Donc voilà, je trouve que c'est important de voir un peu, de suivre un peu ce qui se passe dans ce milieu-là, surtout si ça vous intéresse. Et donc n'hésitez pas à aller voir plus en détail, vous ne serez pas déçus. Et j'espère que en tout cas vous suivrez ce conseil et que vous apprécierez cet épisode. Et je vous dis à la prochaine fois.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt. La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.